une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 13, le défi socialiste. Quatrième partie. À New York, les défilés en faveur du suffrage féminin gagnaient en ampleur chaque printemps. En 1912, une dépêche de presse en témoigne. Tout au long de la 5e avenue, entre Washington Square où le cortège s'était formé et la 57e rue où il se dispersa, des milliers de New-Yorkais et de New-Yorkaises se sont attroupés. Ils encombraient tous les carrefours situés sur le parcours de la manifestation. Nombre d'entre eux s'étaient préparés à rigoler un bon coup, mais ils n'en firent rien. Le spectacle de l'impressionnante colonne composée de femmes, défilant à cinq de front au milieu de la rue, étouffait toute intention de moquerie. Des femmes médecins, des femmes juristes, des architectes, des artistes, des actrices, des sculptrices, des domestiques, des serveuses et un fantastique bataillon d'ouvrières, toutes marchaient avec une énergie et une détermination qui ont stupéfié la foule massée sur les trottoirs. Au printemps 1913, le correspondant du New York Times à Washington écrivait « La manifestation en faveur du vote des femmes qui a eu lieu aujourd'hui constitue le plus grand défilé de femmes de l'histoire de Washington. 5000 femmes ont descendu la Pennsylvania Avenue. C'était une manifestation stupéfiante et on estime à près de 500 000 le nombre de personnes qui ont regardé ces femmes manifester pour défendre leur cause. » Certaines grandes figures féminines du radicalisme demeuraient toutefois perplexes. L'anarchiste et féministe Emma Goldman exprimait, avec force comme toujours, sa position sur le vote des femmes. « Notre fétiche du jour, c'est le suffrage universel. Les Néo-Zélandaises et les Australiennes votent et participent à l'élaboration des lois. Les conditions de travail, y sont-elles pour autant meilleures ? L'histoire politique de l'homme démontre qu'elles ne lui ont rien apporté qu'il n'aurait pu obtenir d'une manière plus directe, moins coûteuse et plus durable. » En fait, chaque pouce de terrain gagné l'a été par la lutte constante, par une incessante auto-affirmation, et non par le suffrage. Il n'y a aucune raison de penser, dès lors, que la femme, dans sa volonté d'émancipation, a été ou sera jamais soutenue par les urnes. Son développement, sa liberté et son indépendance doivent venir d'elle et advenir par elle. D'abord en s'affirmant en tant que personne, puis en refusant à quiconque tout droit sur son corps, en refusant d'enfanter si tel n'est pas son désir, en refusant d'être mise au service de Dieu, de l'État, de la société, du mari, de la famille, etc. Et enfin, en vivant une vie plus simple, mais également plus profonde et plus riche. C'est cela seulement, et certes, pas le vote, qui libérera la femme. Helen Keller, pour sa part, écrivait en 1911 à une suffragette anglaise. « Notre démocratie n'est qu'un vain mot. Nous votons. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous pouvons choisir entre deux véritables autocrates, même s'ils ne l'avouent pas. Nous avons le choix entre M. Coucy et M. Coussa. Vous demandez le droit de vote pour les femmes. Que peut apporter le vote quand les 9 dixièmes de la terre en Angleterre sont aux mains de 200 000 individus et que 40 millions de personnes doivent se contenter du reste. Vos hommes, avec leurs millions de bulletins de vote, ont-ils pour autant effacé cette injustice? Emma Goldman ne repoussait pas l'émancipation des femmes à l'avènement de l'ère socialiste. Elle préconisait simplement une action plus directe et plus immédiate que le vote. Mother Jones, pour sa part, ne s'intéressait pas outre mesure au féminisme. Elle était beaucoup trop occupée à organiser les mineurs et les ouvriers du textile, leurs femmes et leurs enfants. L'une de ses nombreuses prouesses fut l'organisation d'une marche des enfants sur Washington pour exiger l'abolition du travail des enfants. À l'orée du XXe siècle, 280 000 enfants âgés de 10 à 15 ans travaillaient encore dans les mines, les manufactures et les usines. Les femmes noires subissaient une double oppression. En 1912, l'une d'entre elles écrivit à un journal pour se plaindre. « Nous, les pauvres salariés de couleur qui habitons dans le Sud, menons un terrible combat. D'un côté, nous sommes harcelés par les hommes noirs, qui devraient pourtant être nos protecteurs naturels, et de l'autre, que ce soit à la cuisine, dans les blanchisseries, derrière la machine à coudre ou le landau, nous sommes à peine mieux traités que des chevaux de trait, des bêtes de somme, des esclaves. » Pendant ces toutes premières années du XXe siècle, que des générations d'universitaires blancs s'obstinent à appeler la période progressiste, des lynchages avaient lieu toutes les semaines. Au nord comme au sud, la situation des Noirs était au plus bas, au nadir, comme le disait l'historien noir Rayford Logan. En 1910, il y avait 10 millions de Noirs américains, dont 9 millions vivaient dans le sud. Les gouvernements américains, dont les présidents successifs entre 1901 et 1921 furent Roosevelt, Howard Taft, Woodrow Wilson, républicains ou démocrates, assistèrent au lynchage de nègres, furent témoins d'émeutes meurtrières contre les Noirs à Statesboro, en Géorgie, à Brownsville, au Texas, ou à Atlanta, en Géorgie. Et ils se turent. Le Parti socialiste, qui comptait des Noirs parmi ses membres, ne fit pas grand-chose concernant la question raciale. Selon Ray Ginger, lorsqu'on discutait des préjugés raciaux devant Debs, il les condamnait toujours publiquement. Il insistait constamment sur la notion d'égalité absolue des droits. Mais il n'arrivait pas à admettre que des mesures pratiques spécifiques étaient parfois nécessaires pour réaliser cette égalité. Les Noirs commencèrent à s'organiser. Le National Afro-American Council fut créé en 1903 pour protester contre le lynchage, contre le système de péonisation, la discrimination et la privation des droits de représentation. La National Association of Colored Women, née à peu près à la même époque, condamnait également les lynchages et la ségrégation. En 1906, en Géorgie, se tint une convention sur l'égalité des droits qui rendit hommage aux 260 Noirs lynchés depuis 1885. Cette convention réclama le droit de vote, le droit de participer à la milice et aux jurys des tribunaux. Elle reconnaissait que les Noirs devaient travailler dur, mais en même temps, nous devons poursuivre l'action, revendiquer, protester, et continuer de le faire contre les attaques portées contre nos droits d'être humain. W.E.B. Dubois, qui enseigna à Atlanta en Géorgie en 1905, invita les leaders noirs à travers tout le pays à participer à une conférence qui se tiendrait juste de l'autre côté de la frontière avec le Canada, près des chutes du Niagara. Ce fut le début du fameux mouvement du Niagara. Dubois, originaire du Massachusetts, avait été le premier noir à obtenir un doctorat à l'université de Harvard en 1895 et venait de publier son œuvre puissante et inspirée, The Souls of Black Folk. Bien que sympathisant socialiste, Dubois ne fut que très brièvement membre du parti. Une émeute raciale à Springfield, dans l'Illinois, fut à l'origine de la création, en 1910, de la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. Les Blancs étaient à la tête de cette nouvelle organisation, dont Dubois était le seul dirigeant noir. Il fut également le premier directeur du CRISIS, l'organe officiel de l'association. Si le NAACP insistait avant tout sur l'information et sur la pratique légaliste, Dubois y insufflait l'esprit des déclarations du mouvement du Niagara. L'activisme résolu et permanent est le chemin vers la liberté. À cette époque, les Noirs, les féministes, les militants ouvriers et les socialistes étaient parfaitement conscients qu'ils ne devaient rien attendre du gouvernement américain. Ils vivaient pourtant la fameuse période progressiste au début de l'ère des réformes. Mais il s'agissait de réformes réactives destinées à calmer la contestation populaire sans opérer de changements fondamentaux. L'emploi du terme progressiste découle du vote d'un certain nombre de lois. Sous Theodore Roosevelt, il y eut la loi sur le contrôle des industries alimentaires, la loi Hepburn sur les tarifs ferroviaires et les réseaux de pipelines, une loi sur le contrôle pharmaceutique et alimentaire. Sous la présidence de Taft, la loi Mannelkins plaça le téléphone et le télégraphe sous l'autorité de la Commission du commerce entre les États. Sous celle de Woodrow Wilson, la Commission fédérale au commerce fut créée pour contrôler le développement des monopoles, et la création de la réserve fédérale permit de réguler le système bancaire et monétaire du pays. Sous Taft, on vota le 16e amendement qui instituait l'impôt sur le revenu et le 17e amendement qui stipulait que les sénateurs seraient désormais élus directement par le peuple et non plus par les législatures des États comme le prévoyait originellement la Constitution. C'est également à cette époque qu'un certain nombre d'États votèrent des lois qui réglementaient les salaires et les horaires, prévoyaient une inspection de sécurité dans les usines et des compensations en cas d'accident du travail. On mit également sur pied des enquêtes publiques afin d'apaiser la contestation. En 1913, la commission Peugeot Antitrust étudia la concentration des pouvoirs dans l'industrie bancaire et la commission sénatoriale sur les rapports sociaux organisa des audiences publiques sur les conflits sociaux. Indubitablement, les citoyens ordinaires bénéficièrent jusqu'à un certain point de ces quelques changements. Le système était riche, productif et complexe. Il pouvait se permettre de se délester d'une part de ses richesses pour en faire don à une fraction de la classe laborieuse susceptible de servir alors de digue entre les classes les plus défavorisées et les classes les plus aisées de la société. Quoi qu'il en soit, la situation ne changea pas fondamentalement pour l'immense majorité des petits fermiers, des ouvriers, des habitants, des taudis, des mineurs, des ouvriers agricoles, des hommes et des femmes au travail, qu'ils soient noirs ou blancs. Robert Wiebe considère le mouvement progressiste comme une tentative du système de s'ajuster à une situation mouvante pour s'assurer plus de stabilité. Au travers de réglementations ou sanctions impersonnelles, le système rechercherait une continuité et une prévisibilité qui lui étaient nécessaires dans un monde en perpétuelle mutation. Il assigna un plus grand pouvoir au gouverneur et encouragea la centralisation de l'autorité. Harold Faulkner suggère que ce nouvel engouement pour un gouvernement fort bénéficia aux plus puissants groupes économiques. Gabriel Kolko y voit pour sa part l'émergence du capitalisme politique, par lequel les hommes d'affaires affirmaient leur contrôle sur le système politique, l'économie privée ne parvenant plus à réduire au silence les protestations de la base. Selon Kolko, les hommes d'affaires n'étaient pas opposés aux nouvelles réformes. Ce furent eux, au contraire, qui les inspiraient et les promouvaient pour stabiliser le système capitaliste en cette époque d'incertitude et de troubles. Roosevelt, par exemple, se fit une réputation de tueur de trust, même si Taft, son successeur supposé conservateur, alors que Roosevelt se prétendait progressiste, poursuivit en justice plus de trust que Roosevelt. En fait, comme Wiebe le souligne, deux des collaborateurs de J.P. Morgan, Elbert Gerry, président de la U.S. Steel, et George Perkins, qui fera plus tard campagne pour Roosevelt, s'accordèrent avec Roosevelt pour coopérer avec toutes les commissions d'investigation formées par le Bureau des industries en échange de l'assurance que leurs entreprises ne seraient pas ennuyées. Tout devait se passer dans des négociations privées avec le président lui-même. Un gentleman agreement entre gens raisonnables, conclut Wiebe. La crise de 1907, ainsi que l'influence croissante des socialistes, de l'IWW et des syndicats, accélérèrent le processus des réformes. Selon Wiebe, toujours, vers 1908, un changement radical de perspective s'opéra chez un grand nombre de ces hommes de pouvoir. On insistait désormais sur l'entente et le compromis. Cela se poursuivit sous le président Wilson, et un grand nombre de citoyens, d'esprit réformiste, se laissèrent prendre à l'illusion d'un accomplissement progressiste. Ce que les critiques radicaux disent aujourd'hui à propos de ces réformes était déjà exprimé à l'époque, en 1901, dans le Bankers Magazine. Le monde des affaires de ce pays ayant appris les secrets de la combinaison des intérêts, il investit graduellement le pouvoir politique pour en faire le serviteur de ses objectifs. Il y avait en effet beaucoup à stabiliser et beaucoup à protéger à cette époque. En 1904, 318 trusts, dont le capital s'élevait à plus de 7 milliards de dollars, contrôlaient 40% de la production américaine. Helen Keller, pour sa part, écrivait en 1911 à une suffragette anglaise. « Notre démocratie n'est qu'un vain mot. Nous votons. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous pouvons choisir entre deux véritables autocrates, même s'ils ne l'avouent pas. Nous avons le choix entre M. Coucy et M. Coussa. Vous demandez le droit de vote pour les femmes. Que peut apporter le vote quand les 9 dixièmes de la terre en Angleterre sont aux mains de 200 000 individus et que 40 millions de personnes doivent se contenter du reste. Vos hommes, avec leurs millions de bulletins de vote, ont-ils pour autant effacé cette injustice ?